Mondial Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de l'Olympique de Marseille, du Rallye Dakar, d'escrime en Côte d'Ivoire et de Serena Williams. Mais tout d'abord, place aux Coupes d'Afrique de football avec vous, Éric Chorin. Bonsoir.
Bonsoir, Éric.
Les Coupes d'Afrique, c'est leur grand retour ce week-end. En Ligue des Champions, tout d'abord, se jouaient les matchs de la première journée de la phase de poule.
Et le dernier d'entre eux s'est terminé il n'y a pas très longtemps du côté de Borg El Arab en Égypte. Un dernier match qui opposait le Al Ahly Le Caire, finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, aux Congolais du V-Club de Kinshasa, finaliste eux de la dernière Coupe de la Confédération. On appelle ça une affiche et c'est Al Ahly qui l'a emporté 2-0 sous vos yeux, Frédéric Nkana. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir Eric.
Avec un score donc de 2-0 pour le Al Ahly Le Caire.
Oui, 2-0. Hein. Les finalistes de la dernière édition de la Ligue des Champions ont donc gagné 2-0, mais ils ont éprouvé les pires difficultés face à un AS Vita Club réduit à 10 dès la 35e minute suite à l'expulsion de Charles Kalonji. En effet, l'Ahly a dû attendre la dernière demi-heure pour trouver l'ouverture du score par le biais de Nasser Maher, qui venait tout juste de rentrer en jeu. Parfaitement servi au point de pénalty, il a laissé aucune chance aux Congolais. 13 minutes plus tard, c'était au tour de l'international tunisien Ali Marloul de crucifier les Congolais grâce à un pénalty parfaitement tiré. Il faut dire que l'affiche, vous parliez d'affiche, mais l'affiche n'a pas tenu ses promesses. Hein. Il faut dire qu'avant l'ouverture du score, donc à la 65e minute, les 22 acteurs avaient multiplié les erreurs techniques, il n'y avait pas trop d'action. Et on peut certainement attribuer cela à une pelouse de Borg El Arab complètement abîmée ou peut-être à un thermomètre en dessous des 10 degrés. En tout cas, il faut dire que l'affiche n'avait pas trop une saveur d'affiche puisqu'il n'y avait pas trop de supporters, 10 000 seulement, et ce à 6 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler donc en Égypte.
Merci Frédéric Nkana à Borg El Arab après la victoire 2-0 du Al Ahly Le Caire face au Vita Club de Kinshasa en Ligue des Champions.
Autre face-à-face entre club congolais et club égyptien, celui qu'opposait le tout-puissant Mazembe à Ismaili.
Encore un match de fou hein, du côté de Lubumbashi. Eric, le tout-puissant s'est imposé 2-0 également, 2 buts inscrits là aussi en fin de match par Chico Ushindi et Kevin Mondeko, mais la rencontre a bien failli basculer à la 44e minute. Le gardien de Mazembe, l'ivoirien Sylvain Gbowo, a été expulsé et l'arbitre a indiqué dans la foulée le point de pénalty. Aimé Bakula, le remplaçant de Gbowo, est entré en jeu pour arrêter le pénalty égyptien, mais les Congolais ont dû resserrer les rangs pendant toute une mi-temps pour finalement l'emporter. C'est Aimé Bakula qui raconte au micro de Pascal Mangala.
On a bossé ensemble. En tout cas, je félicite le groupe parce que jouer en infériorité, c'était pas facile. En tout cas, je félicite le groupe.
Au moment où il y a ce carton rouge, comment vous vous êtes senti pour prendre cette responsabilité et arrêter le pénalty?
C'était pas facile. Et puis, il y avait un pénalty aussi. Avec le manque de temps de jeu, c'était pas facile. Bon, j'étais calme, j'étais confiant. Parce que en face de moi, un pénalty ne me fait pas peur. Et avec l'expérience que j'ai accueillie auprès de Kidiaba, j'étais calme. Je savais que ça allait bien se passer par la grâce de Dieu. Poste de gardien, ce n'est pas facile. Je dois encore beaucoup travailler, beaucoup bosser pour mériter cette place.
Aimé Bakula qui rendait hommage à l'ancien gardien de légende du Tout-Puissant et de la RDC, Robert Kidiaba. Les deux autres résultats du jour, c'est la victoire 3-0 des Tanzaniens de Simba face aux Algériens de la jeunesse sportive de la Saoura et le nul 0-0 entre les Zimbabwéens de Platinum et les Sud-Africains d'Orlando Pirates.
Alors cette phase de la Ligue des Champions s'est ouverte hier avec notamment les matchs de la poule A.
Ouais, poule A où les deux clubs qui recevaient l'ont emporté, 2-1 pour les Nigérians de Lobby Stars face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et 5-2 en faveur du Wydad Casablanca aux dépens de l'ASEC Abidjan. Autre rencontre jouée hier, celle qui a vu la victoire à l'extérieur des Algériens du CS Constantine 1-0 face au club africain. Match qui s'est joué à Sousse et non à Tunis, faute de terrain aux normes disponibles à Tunis. Une première journée marquée également par le match nul, Eric, entre l'Oroya Conakry et l'Espérance de Tunis. 1-1. L'Oroya a donc tenu en échec le champion d'Afrique en titre, même s'il aurait pu faire encore mieux puisqu'il menait 1-0 à la 93e minute, mais Anis Badri a répondu à l'ouverture du score, donc on sait Mandela.
Est-ce que le club guinéen, on peut le dire, fait jeu égal avec l'Espérance, une performance à la hauteur des ambitions affichées par le club du président Antonio Soare?
Oui, 7 nouveaux joueurs ont débarqué à l'intersaison, dont 4 recrutés à l'étranger, le malien Boubacar Samasekou, le nigérian Adelayo Olulu et les ghanéens Yakubu Ubu et surtout Patrick Razak, l'attaquant venu d'Hearts of Oak, des guinéens également, Lamine Fofana et Nabi Souma, mais c'est surtout le jeune Boniface Abba qui s'impose depuis le début de la saison avec 8 buts en 4 matchs. Tous ces joueurs étaient déjà là ou déjà recrutés quand Patrice Neveu a pris les commandes du club en octobre dernier en remplacement de Victor Zvinka, le technicien français, ancien sélectionneur du Sud National, choisi pour faire passer un nouveau cap à l'Oroya après son quart de finale de Ligue des Champions l'an passé. Mais Patrice Neveu, arrivé seulement en octobre dernier, demande de la patience. Il s'est confié à Tiernoia Diallo.
Je suis arrivé, bon, un recrutement avait été effectué. Bon, rapidement, j'ai dû prendre mes marques et on s'est surtout préparé pour les tours préliminaires sur une base de matchs amicaux. Pour moi, je dirais insuffisant pour se préparer, mais on a fait avec. On a réussi à passer, comme vous le savez, ces deux tours préliminaires. On a battu deux fois l'équipe du Liberia, de Barak, et on a réussi à se qualifier dernièrement contre l'équipe libyenne d'Al Nasser.
Vous sentez-vous dans un grand club en construction aujourd'hui ?
Oui, complètement. Après, comme vous le savez, j'arrive justement à une période où le club est très ambitieux. Ils sont en quart de finale l'année dernière, qui est une belle performance. Et qu'après, il est toujours difficile de mettre en place les derniers éléments pour franchir le niveau supérieur. Parce que le haut niveau, c'est Al Ahly, c'est l'Espérance de Tunis et tous ces grands clubs que vous connaissez, Tout-Puissant Mazembe. Mais le club est sur la voie de la construction d'un futur Tout-Puissant Mazembe. Maintenant, il faut du temps, de la patience. Tout se met en place, les infrastructures, ça s'améliore. Après, ben, il faut attendre les bonnes opportunités pour finaliser, je dirais, ce que le président recherche, c'est-à-dire un titre.
Êtes-vous satisfait du recrutement effectué par le Real de Conakry aujourd'hui ?
Le recrutement, ce que je sais, c'est que mon président a voulu bien faire. C'était fait avec beaucoup d'engagement de sa part et il a mis, je dirais, beaucoup de moyens. Bon, après, à cette période de la saison, c'est plus un élément sur lequel moi je souhaite revenir parce que je dois faire avec les joueurs que j'ai à ma disposition. Je fais avec, certains joueurs ont encore besoin de temps pour pouvoir progresser et pour pouvoir donner beaucoup plus parce que c'est des joueurs qui ont été pris pour amener un plus. Donc il faut leur donner le temps. J'aimerais que ça aille plus vite, mais il faut laisser le temps au temps. Mais il y a certains qui viennent de championnats où ils ont peu joué. Là, qui viennent du Mali, voire du Ghana, où les championnats n'ont pas été réguliers. Donc rien de tel pour un joueur d'avoir de la compétition dans les jambes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mon président, on a la recherche d'un attaquant supplémentaire. Mais bon, les joueurs de grande qualité, tout le monde recherche ces grands joueurs. Mais on a aussi des jeunes dans le club avec lesquels il faut travailler, mais ça va demander un petit peu plus de temps.
Pourquoi avoir autant recruté à l'étranger ?
Bon, ça a été, je pense, une politique qui a été mise en place, si vous voulez, par mes prédécesseurs. Moi, c'est vrai que j'aspire, pour l'avenir, à élargir mon recrutement beaucoup plus sur la Guinée et aller chercher à l'étranger vraiment un ou deux très grands joueurs qui puissent nous amener le plus. Parce qu'il y a de bons joueurs, il y a de bons joueurs en Guinée. Chez les jeunes, il y a de très bons joueurs. Maintenant, on sait qu'un très bon joueur, pour qu'il soit performant au haut niveau, il faut du temps. Et quelquefois, le temps, l'envie d'aller chercher un trophée fait que on a tendance à aller voir à l'extérieur si c'est meilleur.
Est-ce qu'il y a des problèmes d'adaptation aujourd'hui ?
Il y en a qui me donnent une belle satisfaction. Il y a Oudou derrière qui a un latéral d'expérience. Fofana qui a été recruté, qui fait aussi de bons matchs. Nabi Souma, ça commence à venir. Razak, bon, il faut du temps. C'est vrai qu'on comptait beaucoup sur lui. Maintenant, le manque de compétition lui fait défaut. Donc j'essaye au maximum de le remettre en confiance. Ça va venir, il faut encore une fois du temps. C'est un jeune joueur qui mute et qui change de culture, de pays. Il lui faut du temps. Maintenant, moi, je pense aussi que sur le terrain, le rectangle vert est dans les mêmes dispositions partout au monde. Donc, on va l'aider. On va tout faire, je dirais, pour qu'il amène les espoirs qu'on comptait sur lui.
Et moi, sur Boniface Abba, qui est actuellement en train de marcher sur l'eau.
La Boniface, il a beaucoup travaillé en ce début de saison. Il a été longtemps dans l'antichambre. Il a fait des matchs amicaux. Il a su patienter. Il a su saisir sa chance. Puis, bah, comme tout compétiteur qui se respecte, sa concentration, son envie de s'imposer fait qu'aujourd'hui il est très performant devant le but. À l'entraînement, il a pris confiance en lui en plus. C'est un plus pour nous aussi quand même au niveau de l'équipe.
Pouvez-vous être l'homme qui va faire passer le Oroya un cap cette saison à Ligue des Champions ?
Je pense que je peux, en collaborant étroitement avec mon président, parce que sans mon président je ne ferai rien, ça c'est une évidence. Oui, je pense que je peux être l'homme de la situation. Maintenant, j'avoue qu'il faut me laisser quand même un peu de temps. Tout le monde aspire à gagner ce trophée, mais bon, je connais bien les grands clubs, Tout-Puissant Mazembe, l'Espérance de Tunis, Al Ahly, parce que j'ai travaillé en Égypte, et je sais qu'il faut laisser du temps. Donc je peux être là, bien sûr, pour soutenir le projet, pour le faire avancer. Maintenant, dire que ce sera moi qui prendra le trophée, ce serait manquer de modestie.
Patrice Neveu au micro de Tierno Yadiello.
Autre Coupe d'Afrique, Eric, c'est la Coupe de la Confédération avec ce week-end les matchs aller du tour de cadrage, un 16e de finale bis qui va déterminer les poules de la compétition.
Et quatre matchs ont eu lieu aujourd'hui, dont la belle victoire des Zambiens de Nkana face aux Ivoiriens du Football Club de San Pedro 3-0, trois matchs nuls 0-0 entre les Ougandais de Vipers et les Tunisiens du Club Sportif Sfaxien, un partout entre les Namibiens d'African Stars et les Marocains du Raja Casablanca, 1-1 enfin à Bamako entre le Stade Malien et les Angolais du Petro Atletico, ouverture du score de Ali Badrassila à la 23e minute pour les Maliens. Égalisation angolaise 8 minutes plus tard. Résultat qui déçoit le milieu de terrain du stade, Sekou Gassama, même si tout n'est pas perdu avant le match retour.
Ce résultat, on sait que ça n'a pas été un autre avantage. On pouvait faire mieux que ça. Parce que durant tout le match, on a dominé tout le match pendant 90 minutes. Mais comme vous le voyez, c'est un match de barrage. Ce n'est jamais facile. Souvent, ça se joue sur le détail. Mais on va essayer de corriger tout ça parce que ça va se jouer sur le détail. Déjà, on est dominé sur le plan effectif. On ne joue pas à 100% de notre état. On n'a pas tous nos armes, mais on essaie de régler tout ça. Inch'Allah, on sait qu'on peut battre cette équipe. On a la conviction qu'on va aller battre cette équipe ce jeu.
Sekou Gassama au micro de Mahamadou Kaloga. Notez que le match qui devait opposer les Sénégalais de la Jarab de Dakar aux Marocains de la Renaissance Sportive de Berkane a été reprogrammé lundi. Les neuf autres matchs de cette compétition, ben on en reparle demain, Eric.
Avec plaisir, Eric Chorin, merci. La Ligue 1 française à présent vient 20e journée ce week-end et le Paris Saint-Germain qui s'est remis dans le droit chemin trois jours après avoir été éliminé de la Coupe de la Ligue par Guingamp. De surcroît à domicile, sa première défaite de la saison sur le plan national, le club parisien s'est imposé tout à l'heure à Amiens 3-0. Conséquent, le PSG compte 13 longueurs d'avance sur son dauphin lillois. Autre résultat ce soir, deux victoires, 1-0 pour Nice devant Bordeaux. Et pour Saint-Étienne à Guingamp, les Verts qui du coup rejoignent Lyon à la troisième place. Demain, suite et fin de cette 20e journée avec un derby azuréen qui vaudra assurément le détour. L'Olympique de Marseille reçoit l'AS Monaco de Thierry Henry. Si les Monégasques se sont quelque peu rassurés cette semaine en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, c'est plus que jamais la crise du côté de la Canebière, la première de l'ère Frank McCourt, l'homme d'affaires américain qui a racheté le club fin 2016. La finale de la Ligue Europa, disputée en mai 2018, paraît bien loin. L'OM, en effet, n'a plus gagné depuis le 25 novembre et se retrouve éliminée des trois coupes auxquelles elle participait. La Ligue Europa, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, c'était dimanche dernier face à une équipe amateur. La contre-performance de trop pour les supporters qui ont manifesté cette semaine leur ras-le-bol. À Marseille, le reportage de Stéphane Burgat.
La température est montée d'un cran cette semaine devant la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, bouclé avec des renforts de police devant les grilles, suite au rassemblement d'une cinquantaine de supporters très en colère, et ses murs tagués dans la rue avec des insultes et des appels à la démission visant le président Jacques-Henri Hérault et surtout l'entraîneur Rudy Garcia qui ne semble pas atteint pour autant.
On préfère les après-qualifications l'année dernière par exemple, parce que les supporters à ce moment-là sont très positifs, y compris envers l'équipe et envers moi, mais ça fait partie aussi des choses qu'il faut accepter. Dans ces moments difficiles en fait, vous voyez qui sont vraiment les gens qui vous soutiennent et qui vous apprécient. Moi mon cas est pas important, par contre le cas de l'équipe est important. Donc voilà pourquoi il faut que tous nos supporters, dimanche contre Monaco, supportent l'équipe.
Les supporters de l'OM sont partagés entre colère et incompréhension. L'incompréhension d'abord, comment le club finaliste de l'Europa League la saison passée peut-il être éliminé dès la phase de groupe de cette nouvelle édition sans la moindre victoire et en finissant bon dernier de sa poule derrière le modeste club chypriote de l'Apollon Limassol. Et puis la colère plus intense encore depuis une semaine et l'élimination en Coupe de France contre le club amateur d'Andrézieux qui évolue en 4e division. Une faute professionnelle pour les supporters marseillais.
Mais c'était écœurant quand même. On est l'OM. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, ils ont abusé. Je trouve qu'ils ont abusé. Comme des amateurs, après, j'ai rien contre eux. Hein. Quand on est l'OM, on n'a pas le droit de perdre contre Andrézieux. C'est la faute aux joueurs. C'est des joueurs qui doivent mouiller le maillot. C'est du jamais vu. J'arrive pas à croire. Et pourtant, je m'attendais à une belle saison cette année. Hein.
Les résultats sont décevants, tout comme le fond de jeu, quoi qu'en dise Rudy Garcia. Et pourtant, l'OM a conservé ses joueurs cadres à l'intersaison. Mais les internationaux sont revenus en petite forme et les trois recrues, dont Kevin Strootman de l'AS Roma, plus gros salaire du vestiaire, n'arrivent pas à s'imposer Plus de 60 millions d'euros mal dépensés, reprochent les supporters, et qui en veulent autant aux joueurs qu'à la direction olympienne.
De bonnes gifles à tout le monde, aux joueurs comme aux dirigeants.
Faire un remaniement quelque part, quoi. Faut foutre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit au bout d'un moment.
Changer le staff, oui. Rappeler aux joueurs qui sont là ou pas que pour toucher un salaire.
Tous fragilisés, entraîneurs, présidents, joueurs, le club cherche des solutions. Une réunion s'est tenue récemment dans le vestiaire, où tout le monde a pu vider son sac, exprimer ses regrets et reproches d'après une indiscrétion révélée par le journal L'Équipe. Suffisant pour inverser la tendance et cette série de 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Réponse demain soir au Vélodrome pour la réception de Monaco. Et l'accueil promet d'être bouillant. Florian Thauvin, le meilleur buteur olympien, fait le dos rond.
On sait que ça va être un match compliqué pour nous, comme les supporters l'ont dit. L'ambiance ne sera pas la meilleure possible. Et nous, on sait que notre 12e homme, pour nous, c'est important parce que ça déclenche quelque chose à l'intérieur de nous qui est inexplicable. Ça nous donne une force en plus. Et dans une situation compliquée comme celle-là, ça nous donnerait beaucoup de force. Maintenant, la situation, elle est telle. Nous devons l'assumer. Et je pense qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes de manière à repartir sur une belle série et à reconquérir le cœur de nos supporters.
Car les clubs de supporters ont lancé des signaux cette semaine. S'ils feront du bruit, ce sera cette fois-ci pour mettre la pression sur tous les acteurs de leur club. Avis de tempête, donc certains espèrent même une défaite de l'OM dans l'espoir d'un électrochoc, un geste fort qui pourrait venir de l'actionnaire principal, Frank McCourt, l'homme d'affaires américain, plutôt discret jusque-là. Stéphane Burgat, Marseille, RFI.
Marseille-Monaco, match sous tension donc demain soir au Vélodrome. En Angleterre, 22e épisode de la Première Ligue, Liverpool prend provisoirement 7 points d'avance sur Manchester City. Après son succès aujourd'hui à Brighton, 1-0, un pénalty de Mohamed Salah. Les Citizens qui joueront lundi contre Wolverhampton. Tottenham, 3e, jouera demain contre Manchester United. Le 4e, c'est Chelsea, vainqueur tout à l'heure de Newcastle, 2-1. De la casse sur le Dakar depuis le départ du rallye 2019 lundi dernier à Lima, 87 abandons ont été enregistrés, soit plus du quart de la caravane composée au départ de 247 participants. Le sable des nombreuses dunes rencontrées dans le sud du pays à travers les 5 étapes pour l'instant disputées a fait du dégât au Pérou, y compris chez les leaders. La journée de repos aujourd'hui du côté d'Arequipa a donc fait du bien à tout le monde. Notre correspondant sur place, Eric Sanson, en a profité pour faire le point à mi-parcours sur cette 41e édition.
Le fèche-fèche, ce sable fin comme de la farine et piégeux pour les pilotes, a été le juge de paix de cette 5e étape, remportée par Sébastien Loeb, plutôt satisfait de sa journée.
Aujourd'hui, en tout cas, on a fait une belle spéciale. On a bien vu qu'on a doublé tout le monde, donc a priori, on est devant. En tout cas, nous, on ne fait pas de faute, j'ai attaqué fort, il y avait des pistes, c'était du vrai pilotage, et on est quand même loin pour l'instant, donc on verra bien.
Même s'il lui a repris 10 minutes, Sébastien Loeb reste encore à 40 minutes du leader provisoire, le Qatari Nasser Al-Attiyah, très zen et succinct au bivouac d'Arequipa.
C'était une bonne journée. On est heureux, on est leader du Dakar et content d'être revenu en tête à Arequipa.
Loeb étant encore loin, Nasser Al-Attiyah, c'est qui il doit surveiller.
Moi, je dois me concentrer sur Stéphane. C'est l'homme dangereux sur le Dakar.
Même s'il est deuxième en général, Stéphane Peterhansel a perdu du temps et pointe à 24 minutes du leader. Il garde l'espoir. Mais c'est que la 5e journée n'a pas été bonne.
Trop d'erreurs. Déjà, bon, le 2e jour, c'est pas trop de notre faute. On n'avait pas de système de dégonflage. Mais là, se mettre dans un tas de fèche-fèche, j'aurais dû le voir, que c'était hyper mou, le sentir ou faire plus attention. Mais bon, malgré tout, il y a une seule Toyota qui est devant. On sait qu'ils sont pas 100% fiables. Il peut se passer encore pas mal de choses.
Côté moto, et pour une fois, KTM n'est pas en tête, malgré la victoire vendredi de l'un de ses pilotes officiels, Sam Sunderland. Le leader provisoire du classement est l'américain Ricky Brabec sur Honda, avec une petite minute d'avance sur Sunderland, autant dire presque rien sur le Dakar.
Je ne sais pas si je rêve ou si c'est la réalité. C'est fou. J'aimerais bien avoir une plus grande avance au général, mais bon, ce n'est qu'une petite minute. Le Dakar, c'est dur. Je me suis bien préparé, mais je ne pensais pas être là à ce stade.
Alexandre Kowalski est le directeur du Team Yamaha. Lui aussi espère mettre fin à la domination des KTM grâce à Adrien Van Beverem, 5e du classement général, et Xavier de Soultré, 8e, actuellement à 6 et 18 minutes du leader. Un retard moins important qu'il n'y paraît.
Ah non, au Dakar, c'est pas grand-chose. Tout peut basculer en deux temps, trois mouvements. Vous avez un petit pépin, quelque chose, vous vous perdez. Il y a beaucoup de navigation cette année. Il faut être complet, il faut être polyvalent, il faut être fort en navigation, il faut gérer sa mécanique, gérer le bonhomme.
La plupart des pilotes, cela dit, ne cherchent pas le podium pour son premier Dakar. C'est le cas de l'Américain Garrett Pouchet, satisfait de sa 49e place au général. Il est là pour l'expérience et dans toute sa carrière de coureur, n'a jamais connu autant d'engouement du public pour un rallye raid.
Dans chaque petit village, tout le monde était dehors, les enfants, les parents, les frères et sœurs. Tout le monde dans la rue a nous encouragé. Il y avait plein de public aussi dans les dunes de sable, mais très respectueux de la piste. Ils regardaient notre passage à distance.
Eric Sanson, équipe RFI.
Et demain, la caravane repart pour 5 étapes, l'arrivée étant jugée jeudi prochain à Lima. Voici à présent notre portrait de la semaine. Il s'agit du meilleur escrimeur ivoirien. Son nom, Jérémy Fafa Kérihuel. Il a fait toutes ses armes en région parisienne où il est né, il y a 24 ans, d'un père français et d'une mère ivoirienne. La Côte d'Ivoire que le fleurettiste a choisi de représenter en mai 2017. 37e mondial à son meilleur. Sa progression a été freinée dernièrement par une tendinite au genou. Notre jeune stagiaire Thomas Moulin l'a rencontré hier à l'occasion de l'étape parisienne de la Coupe du Monde. Jérémy Fafa Kérihuel lui a raconté son histoire.
J'ai découvert l'escrime à l'âge de 5 ans. Moi, je ne me rappelle plus vraiment comment j'ai découvert l'escrime, mais d'après mes parents, c'était grâce à Zorro. Parce qu'il y avait une affiche de Zorro à l'entrée du club d'escrime. Et donc, en rentrant de l'entraînement de foot, j'ai vu l'affiche de Zorro qui était mon héros favori. Donc, j'ai dit, ah bah, je vais essayer l'escrime. Et donc, bah, depuis 2000, j'ai jamais arrêté.
Tu as fait toutes tes classes en équipe de France. Comment s'est passée ta progression ?
J'ai eu la chance de gagner les compétitions jeunes, très jeunes. Mes deux premières années senior, j'ai intégré aussi le groupe France senior. Et après, j'ai pris la décision de changer justement pour partir avec la Côte d'Ivoire.
Pourquoi ce choix ?
Parce que ma mère est ivoirienne, premièrement. Et qu'on arrivait là sur la période justement des Jeux Olympiques de 2020. Il faut savoir aussi que la Côte d'Ivoire m'avait déjà proposé de venir quelques années auparavant. Puisqu'ils m'ont proposé, si je ne me trompe pas, avant les Jeux de 2012. J'étais encore cadet. Et je me suis rendu compte au final que c'était une bonne chose. Ça laissait aussi plus de liberté dans l'entraînement, plus de liberté sur la gestion de compétition. Et au final, ça a été un choix qui m'a paru presque naturel, en fait, au bout d'un moment, de me dire qu'il faut que je change, finalement.
Quelles sont tes conditions d'entraînement ?
Je m'entraîne toujours au même club dans lequel j'ai commencé, donc le PEC. Donc ça fait maintenant 19 ans que je suis dans ce club-là. Et après, maintenant que je suis aussi en Côte d'Ivoire, j'ai plus de liberté sur mes stages. Je peux partir un peu plus où je veux pour m'entraîner. Là, par exemple, j'ai passé 4 mois à Londres. Et comme je suis tout seul et que j'étais aussi en équipe de France avant, donc je connais beaucoup d'internationaux, on me propose beaucoup de venir aussi pour des stages. Et c'est ça que j'aime bien aussi.
J'imagine que la fédération t'aide, te suit.
Là, j'ai eu de la chance depuis le début de la saison, donc depuis septembre. Je suis devenu maintenant boursier olympique. Donc ça veut dire que je reçois une somme tous les 4 mois. Assez conséquente qui me permet justement de pouvoir subvenir à mes besoins, que ce soit au niveau matériel ou mes besoins pour les compétitions, que ce soit pour les hôtels ou les vols, et même pour tout ce qui est aussi soins du corps, pour tout ce qui est kiné, physio. Donc c'est comme ça vraiment que j'arrive à me débrouiller pour le moment, et ça se passe plutôt pas mal. Ça libère aussi encore une pression.
Quels sont tes rapports avec la Fédération Ivoirienne d'Escrime ?
C'est très difficile pour eux de venir me voir, puisque la Côte d'Ivoire, sur beaucoup de sports, en général, n'a pas énormément de fonds. Et nous, nos compétitions sont dispatchées vraiment à travers le monde. Ils suivent mes résultats, on se contacte de temps en temps par mail, on échange. La fédération est très neuve, elle date, si je me trompe pas, aux alentours de 2008-2010. Donc c'est vraiment très très neuf comme fédération. Et l'escrime est un sport qui demande beaucoup de matériel, des infrastructures spécialisées. Et ça coûte aussi. Donc c'est vraiment très très dur de faire monter des tireurs en Côte d'Ivoire. Comme la fédération est neuve, les tireurs aussi ne sont pas encore au niveau, entre guillemets, requis pour pouvoir essayer vraiment de montrer des choses. Donc c'est une progression lente. Certaines, mais lentes. Donc il faut juste être patient et attendre justement que les choses se mettent en place. Et j'espère que je vais vraiment aider à cette progression de l'escrime ivoirienne au fur et à mesure des années.
Tout ça, combien ça te coûte par an ? Quel est le budget annuel d'un fleurettiste mondial ?
Sur toute une saison complète, sans compter les championnats continentaux et les championnats du monde, il faut à peu près entre 10 et 15 000 euros, rien que pour partir aux compétitions. Et après, au niveau du matériel, une lame coûte 100 euros en moyenne. Et on peut en casser 5, comme on peut en casser 20, comme on peut en casser 2 durant une saison. Donc ça varie vraiment énormément, mais il faut vraiment avoir un budget conséquent pour pouvoir essayer de faire de l'escrime à haut niveau quand même. Parce qu'il y a des aides, mais elles restent quand même assez infimes par rapport à tout ce qui est demandé pour atteindre certains résultats. Donc c'est vraiment difficile.
Est-ce que tu peux nous dire comment se développe l'escrime en Côte d'Ivoire ?
On a quand même pas mal de médailles au championnat d'Afrique cadet et junior. Donc c'est-à-dire qu'on maintenant on arrive à se placer aussi au niveau africain, on arrive à montrer notre visage au niveau africain.
Donc pour toi, le potentiel, il est là ?
Le potentiel est là. Le potentiel est là. Quand j'y vais, je vois des tireurs qui ont commencé l'escrime 2 ans ou 1 an et demi auparavant mais ils ont déjà cette sensation de l'escrime. Moi, je le vois quand je tire avec eux, que oui, il y a beaucoup de choses. Le problème, comme j'ai dit, l'escrime, c'est un sport qui demande du temps. Maintenant, en Afrique, il y a beaucoup de petites compétitions de gala pour les jeunes qui se font entre les pays africains. Ce qui permet même au niveau de l'Afrique de voir un peu le niveau général et de se confronter à d'autres tireurs, d'autres écoles d'escrime. Donc c'est vraiment ça aussi qui fait progresser nos tireurs année après année.
J'imagine que l'objectif maintenant, c'est de faire les Jeux Olympiques.
Il y en a déjà eu une qui a fait les Jeux Olympiques à l'épée, Gladys Sakoa, en 2016. Et donc moi, j'aimerais bien aussi les faire l'année prochaine avec elle et avoir deux tireurs ivoiriens aux Jeux Olympiques. Au niveau de l'Afrique, ce serait déjà quelque chose de beau. À part l'épée du Maghreb, comme ils sont vraiment ancrés dans l'escrime depuis vraiment quelques décennies maintenant. La Côte d'Ivoire est vraiment le meilleur pays, je pense, subsaharien en escrime.
Au-delà des performances, est-ce que tu sens un réel engouement pour l'escrime en Côte d'Ivoire ?
L'engouement est là. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit, avec Gladys et moi en tant que tête de gondole, ça motive vraiment les jeunes derrière. Ça motive les jeunes de voir des Ivoiriens qui réussissent comme ça dans des sports qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont pas forcément médiatisés. C'est vraiment la volonté, l'esprit sportif, l'esprit coubertin, comme on dit, de vraiment se dépasser, de faire les meilleurs résultats possibles. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire avancer les choses petit à petit. Je me rappelle très bien qu'une fois en arrivant en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, j'ai été accueilli tel Didier Drogba, avec cinquantaine de personnes qui m'attendaient à l'aéroport. On m'a donné des bouquets de fleurs, on a fait une grosse conférence de presse. Je les ai vraiment senti impliqués en fait dans l'escrime. C'était pas juste un autre sportif qui arrive comme ça. Non, ils voulaient vraiment me mettre dans les bonnes conditions, tout faire aussi pour que voilà, que je sois au maximum de ma capacité, de mes performances. Ils ont vraiment envie derrière de tout faire pour qu'on réussisse.
Jérémy Fafa Kerruel, qui a également confié à Thomas Moulin qu'il recherchait des sponsors. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, écrivez-nous sur la page Facebook de Mondial Sport et nous lui transmettrons son prochain objectif. Ce sera les championnats d'Afrique prévus en juin à Bamako. Dans deux semaines, le 26 janvier, aura lieu la finale dames de l'Open d'Australie. On parle de tennis, bien sûr. Le premier tournoi du Grand Chelem débute lundi matin à Melbourne. Serena Williams, s'il y soulèvera-t-elle à cette occasion son 24e titre majeur, elle égalerait alors le mythique record de l'Australienne Margaret Court, l'Américaine de 37 ans, court après depuis son retour de maternité en mars dernier. Pour l'ancienne joueuse française Camille Pin, Serena Williams est tout à fait capable de décrocher ce 24e Grand Chelem, et ce, dès cet Open d'Australie. Camille Pin.
Comme d'habitude, Serena, alors même si elle est devenue maman et qu'elle a 37 ans, comme vous le disiez, c'est une des joueuses qui, lorsqu'elle est en forme, est la meilleure joueuse du monde, concrètement. Donc, on lui a laissé une année pour se remettre de sa maternité. Je pense effectivement qu'elle peut remporter ce Grand Chelem dès l'Open d'Australie. Elle a eu un an pour se remettre. Là, elle sort d'une période hivernale de travail. Donc, une Serena en forme physiquement et fraîche mentalement peut faire très mal dès l'Open d'Australie, oui.
Il n'y a pas un petit blocage quand même à l'idée de gagner ce 24e titre, d'égaler Margaret Court. Elle a perdu ses deux dernières finales de Grand Chelem.
Je pense qu'effectivement, elle y pense. Et heureusement qu'il y a ce genre de record pour des joueurs comme Roger Federer ou Serena Williams, parce que sinon, ils perdraient tout intérêt à jouer au tennis. Donc, ça leur donne une petite pression dont ils ont besoin. Effectivement, elle a dû y penser l'année dernière, mais encore une fois, je pense qu'elle a besoin de ce challenge-là et que physiquement, elle était peut-être pas encore ultra prête l'année dernière. Et avec cette petite pression qu'elle se met, ça a fait qu'elle a pas réussi à le concrétiser. Moi, je pense que dans l'année, alors si c'est pas l'Open d'Australie, ça sera peut-être un peu plus tard. Je pense qu'elle va réussir ce challenge du 24, parce que c'est ce qu'elle attend. Et Serena, c'est une sacrée bagarreuse et c'est mentalement, c'est une joueuse assez hors norme.
Oui, Serena Williams qui avait donc échoué dans sa quête à Wimbledon, puis à l'US Open l'an dernier avec à chaque fois des défaites en finale. L'US Open qui est d'ailleurs le dernier tournoi qu'elle a disputé. Avant de se quitter, un résultat de handball, les championnats du monde. À Berlin, deuxième match de l'équipe de France, deuxième victoire. Après un court succès face au Brésil, les experts ont dominé tout à l'heure la Serbie facilement, 32-21. Demain, ce sera une journée de repos pour l'équipe de France. Voilà, on se retrouve demain, toujours avec à la réalisation Hélène Avril et Jean-Philippe Thury. Merci à eux et bonne soirée à vous.